L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue en direct pour ce numéro 3 de L'Oz Actuali. Bonjour Adeline, bonjour Eric.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Voilà, alors Caroline n'est pas avec nous, elle fera peut-être un petit passage tout à l'heure pour nous livrer du pain, mais elle est prise par un impératif professionnel, donc voilà, nous sommes autour de cette table avec aujourd'hui un invité. Bonjour Monsieur Lesage.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous parlerons, je ne sais pas si vous connaissez tous qui est Alain Lesage, mais c'est le patron de Saveur Gourmande, hein, Amande. Donc il nous parlera de son expérience tout à l'heure. Et puis, nous ferons un tour de chronique, comme d'habitude. Et donc, on commencera avec moi qui parlerai d'Axel Lafond. Puisque, soyez bien à l'écoute, pour les deux pauses musicales, vous pourrez jouer avec nous et gagner des places pour le spectacle du 13 octobre au Théâtre de Mende. Nous aurons ensuite une chronique cinéma avec toi, Eric.
Sur le film Demain. Enfin, le film documentaire.
Allez, film documentaire, ça sera donc notre deuxième chronique. Évidemment, les hashtags de la semaine avec Adeline. Déjà, tu nous fais saliver un petit peu
Non, une chronique un peu satirique sur Twitter aujourd'hui. Peu critique, voilà.
Hashtags un peu...
Voilà.
Voilà, et puis on terminera avec notre revue de presse et avec du cybersexisme, des restos barquettes et de l'abus sur Internet, la liberté de la presse menacée.
C'est ça, une nouvelle loi.
Eh bien, impeccable. Un petit jingle et on commence. Voilà, c'est parti. Première partie de cette émission L'Oz Actuali, donc avec Alain Lesage. On va vous demander de vous présenter. Dites-nous un petit peu qui vous êtes. Dites-nous... Aujourd'hui, vous êtes le patron donc de Saveur Gourmande, ce magasin de produits à Mende. On vous voit aussi, on vous a vu au Salon de l'Agriculture. On nous a entendu d'ailleurs sur 48FM dans une émission qu'on avait faite depuis le salon. Comment on en arrive à ça? Racontez-nous un petit peu votre point de départ.
Alors, je suis en effet gérant de la SARL Saveur Gourmande, qui est installée avec au cœur de ville. Avec une petite boutique de revente de différents produits lozériens, essentiellement, qui sont mis à disposition du public sous forme de panier gourmand ou pour chacun se régaler individuellement. Ça peut être des idées cadeaux, ça peut être de la consommation personnelle. Et au-delà de tous ces produits qui sont vendus, il y a une gamme que je transforme moi-même et qui est essentiellement orientée autour du champignon avec un produit un peu original qui a été le début de l'activité, qui a été la production de la liqueur de cèpe.
Alors, pourquoi se dire, tiens, je monte un magasin de produits locaux, régionaux? Qu'est-ce qui vous a motivé là-dedans, finalement?
Alors, pas une branche directe avec les produits régionaux, mais je suis moi-même ancien cuisinier. J'ai terminé en tant que chef de cuisine sur le lycée Pétavin. Et au bout de 15 ans de carrière dans la fonction publique, j'avais envie de voir autre chose. Et puis, j'ai lancé, un site de produits de terroir. Et il s'est trouvé que j'ai eu l'opportunité d'avoir le local commercial qui s'est libéré et puis qu'au départ, ce n'était pas prévu pour durer aussi longtemps. Mais je m'étais dit, ça fera démarrer le site, ça fera connaître les différents produits à la fois aux touristes et puis aux locaux qui prendront l'habitude d'acheter sur Internet. Et puis tout compte fait, on a maintenu l'ouverture de ce magasin depuis 5 ans maintenant, donc il complète l'activité Internet également.
Ouais, donc
c'était un petit peu une transition et puis l'idée c'était de la revente de produits terroirs, pas forcément l'idée de démarrer de la production de mon côté non plus. Et puis à l'occasion de la première édition des Toqués du Cèpe lors de l'année d'ouverture du magasin, j'ai fait goûter la liqueur que je faisais à titre personnel depuis quelques années dans le cadre d'un menu à thème bien des années avant où j'avais mis ça au point. Et puis, tout le monde me dit, avec un produit comme ça, t'as quelque chose d'original, ça se trouve pas ailleurs, tu devrais fabriquer. Et de fil en aiguille, ben, je me suis renseigné sur les possibilités. J'ai maintenant monté un atelier de production bien spécifique. Et puis, ben, on développe d'autres produits pour compléter la gamme.
Alors, quel autre produit, justement ?
Alors, dans les autres produits, celui qui a suivi le plus près, ça a été de la confiture de cèpe, hein, qui s'utilise un petit peu comme un confit d'oignon, voilà, avec des accords sucrés-salés, où il y a plein de déclinaisons possibles aussi avec ce produit. Et puis, bah, toujours avec des idées qui bouillonnent et des envies de sortir des nouvelles choses et un peu inattendues, toujours autour du champignon. L'an dernier, on a sorti des perles moléculaires qui contiennent de la liqueur de cèpe, un produit qui est un petit peu à la mode en ce moment, avec bah, différents produits dedans. Moi, j'ai eu la possibilité de le décliner avec la liqueur. Donc toujours des accords sucrés-salés avec des poissons fumés, avec des tartares de poissons, avec des carpaccio, avec du foie gras, avec des salades composées et même avec du chocolat.
Moi, pour tout vous dire, je l'ai présenté lors d'un dîner un petit peu sur le thème de la nature où du coup, j'avais inclus des perles de cèpe dans une salade composée et ça a fait vraiment grand effet. Donc c'est très sympa et c'est très original.
Alors, comment ça s'utilise on va faire saliver
donc,
nos auditeurs.
Donc, en termes de fabrication, c'est de la cuisine moléculaire. Hein, c'est un gélifiant naturel à base d'algues qui est ajouté au produit et qui tombe ensuite au goutte à goutte dans une solution de sel qui a l'effet de cristalliser les deux produits qui sont en contact. Et le cœur, par contre, va rester liquide. Donc, au niveau texture, on ressemble beaucoup à des œufs de poisson, à des œufs de saumon, de truite. Et on va l'utiliser donc, soit en accompagnement, justement, de ces poissons, tout ce qui est tartare, carpaccio, etc., de poissons. Des salades composées en décor de toast, de verrine apéritive, des accords logiques avec du cèpe, mais quelquefois surprenants, comme des accords avec du chocolat, par exemple, avec des entremets, où ça se marie très, 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 très bien avec. Et puis, ça a phénomène de décoration, un effet de mode, un produit un peu fun.
Et donc, vous ne travaillez que le cèpe ?
Alors, je développe aussi une gamme de confitures sucrées plus conventionnelles autour des fruits locaux, comme les myrtilles, les mûres, du gratte-cul, un peu de châtaigne. Mais l'essentiel de mon activité et tout ce que je présente sur salon jusqu'à maintenant est orienté en effet sur le cèpe et sur le champignon plus généralement. Je transforme aussi des champignons en vinaigre, on fait du séchage de champignons, hein, tout ce qu'on va trouver par ici qui peut être transformé, valorisé d'une certaine manière, à la fois par séchage, conserverie et autres.
C'est vous qui ramassez les champignons
? Je ramasse un peu pour mon plaisir personnel aussi et pour avoir l'occasion de s'accorder une après-midi dans les bois de temps en temps, mais quand c'est la période, il y a vraiment du volume à travailler, je suis plus tenu sur la partie atelier et puis la vente magasin aussi, et j'ai très peu de temps pour aller dans les bois. Je collecte le champignon.
D'accord. Et alors, la liqueur, parce que c'est donc votre produit phare, comment on imagine de faire de la liqueur de cèpe ?
Au tout départ, je vous disais tout à l'heure, c'était dans le cadre d'un menu à thème où je voulais faire un dessert aux champignons, une crème brûlée notamment. Et j'avais eu l'idée de mettre macérer un peu de champignons dans de l'alcool en disant on va faire comme avec un grand marnier, puis on adapte la recette. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Ça donne un côté très amer au produit.
Je me suis dit,
toutes les bonnes recettes, elles partent d'un échec.
Je me suis dit, il est en train de nous donner la recette.
Non, pas du tout. Et j'ai pas voulu rester sur une défaite. Et puis, il y avait ces 2 ou 3 litres d'alcool qui étaient là, qu'il fallait bien faire quelque chose. Et puis, par contre, je me suis rendu compte qu'en cuisine, il y avait du potentiel, il y avait des recettes avec lesquelles ça marchait très, très bien. Mais ça gardait ce côté un peu amer. Et puis, à force, j'ai fait des recherches et j'ai couplé plusieurs origines, plusieurs recettes de grand-mère retrouvées par-ci, par-là pour arriver à enlever cette amertume. Et puis, c'est maintenant quelque chose qui est réussi, qui marche bien. Et puis...
Alors, on l'utilise pas trop pour le déguster directement
c'est un côté champignon qui est assez concentré quand même, qui est un peu surprenant. J'ai des adeptes, j'ai quelques clients qui me la prennent pour la consommer en tant que digestif. Ça passe très bien, hein. Il faut aimer le champignon, c'est sûr, puisque ça a un arôme qui est quand même assez concentré. Et sa principale vocation, ça revient aux origines qui ont fait sa mise au point, c'est de l'utilisation en cuisine. Ça va s'utiliser en déglaçage sur des gibiers grillés, sur des magrets de canard avec une escalope de foie gras frais. Ça peut s'utiliser tout simplement avec un peu de crème en déglaçage d'une escalope poêlée ou d'un émincé de volaille. On va l'ajouter dans une vinaigrette pour servir avec une salade composée avec des noix ou avec des dés de fromage. Voilà, il y a plein d'utilisations possibles. Et
est-ce que ça s'utiliserait...
Sourire, hein.
Oui, moi, je suis très, très gourmande, donc forcément, ça m'intéresse. Est-ce que ça s'utilise également en liqueur dans des boissons, type crémant ou champagne, ou
alors,
c'est plus...
Là aussi, c'est pareil. J'ai quelques clients qui le pratiquent. Moi, je trouve que ce n'est pas une crème, hein, c'est une liqueur. Donc, on a un taux de sucre qui est quand même plus faible que sur une crème de cassis habituellement. Il n'y a pas ce côté fruité qu'on va retrouver dans les fruits. Ça se fait, mais pour avoir vraiment un côté sucré, pour se rapprocher de ce qu'on attend de sucré d'un kir, on est obligé d'augmenter un petit peu la dose et aussi la concentration en champignons. C'est agréable d'en boire un, mais c'est, je trouve que D'accord. c'est un petit peu trop concentré, trop écœurant. On a par contre nos amis de la 48, la brasserie, qui ont, depuis plusieurs années, font une bière avec la liqueur de cèpe dedans, sur une base ambrée.
Un partenariat entre vous, enfin,
voilà,
vous les fournissez.
Fait,
quoi.
Je fournis la liqueur de cèpe et c'est venu parce que je connais très bien Laurent et qu'on avait discuté de son projet d'ouverture de brasserie, puis qu'on l'avait dit en rigolant, faudra faire une bière au cèpe, et c'est parti de là, on a fait quelques essais.
Voilà,
un cocktail, ça marche pas mal maintenant.
On salue, parce qu'effectivement, on l'avait aussi ciblé dans les invitations pour aujourd'hui. Il ne pouvait pas être là aussi pour cette émission. Donc voilà, on le salue. Et effectivement, on pourra déguster ça aussi samedi lors des toquets du CEP. Enfin, vendredi, samedi et dimanche pour les toquets du CEP. On fait une petite pause, on reviendra au CEP dans quelques instants et ça va être le début hein, pour le premier jeu de cette émission.
On joue aujourd'hui donc n'hésitez pas d'ailleurs tweeter et suivre le compte de 48FM.
Voilà et vous pouvez enfin ça va être sur Facebook qu'on va jouer d'ailleurs.
Sur Facebook.
Voilà, donc Ibai, on va vous poser une question alors très facile hein, tout à l'heure, mais d'abord je vais vous parler d'Axel Lafond. C'est effectivement Axel Lafond, ça sera la découverte que vous pourrez faire en venant donc le jeudi 13 octobre au Théâtre de Mende. C'est le cadeau de notre jeu et donc on verra le jeu dans quelques instants. Alors, qui est Axel Lafond, vous allez me dire?
Hein. Alors, qui est Axel Lafond, Guillaume?
Merci Adeline.
C'est la fille de son papa, non?
Et oui, tout à fait, effectivement. Elle est la fille de Patrice Lafond, le présentateur, producteur de télévision. Elle a commencé à participer à la matinale d'Arthur entre 96 et 99 et s'est fait connaître en intervenant dans la grosse émission de 1999 à 2000, puis en présentant en 2000 et 2001 une météo très spéciale et décalée dans l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+, à base de sketchs et de déguisements burlesques. Elle est aussi apparue dans des séries comme Un gars, une fille, Caméra Café, H et Kaamelott. Elle fait aussi un one-man show, La folie du spectacle, sur une mise en scène de Serge Zanavicius et Maurice Barthélémy des Robin des Bois de 2002 à 2005. En 2007, elle a coécrit et coproduit Mariage Surprise. De septembre 2007 à janvier 2008, elle intervient régulièrement dans l'émission On n'est pas couché, animée par Laurent Ruquier, le samedi soir sur France 2. En 2009, elle écrit une BD, Marnie. En février 2010, elle sort son premier album, Axel Lafond in Translation, qui reprend des standards américains traduits en français. Elle est également intervenue dans l'émission de France Inter, Le Fou du Roi. Et en 2012, elle joue Fume cette cigarette au Théâtre des Mathurins en septembre 2015. Elle fait son retour sur scène avec le One Woman Show Hypersensible, mis en scène par Charles Templon. Et c'est justement ce One Woman Show qu'elle vient présenter. Amande, donc après son premier woman show, La folie du spectacle, qui était il y a 10 ans, elle vient donc avec Hypersensible. Elle décrit sans filtre, a priori c'est assez cash hein, comme spectacle, des situations qu'elle vit, des situations qu'elle vit dans son quotidien de femme, de mère, qui la font réagir et bondir, mais surtout avec humour. Avec ses nouveaux super pouvoirs, elle séduit les spectateurs et propose un spectacle drôle et grave à la fois. Voilà, Hypersensible, donc jeudi 13 octobre au Théâtre de Mende à 20h30. Et donc vous allez pouvoir gagner dans quelques instants une place pour ce spectacle. Et vous pourrez rejouer tout à l'heure pendant la deuxième coupure musicale où on pourra gagner une deuxième place. Alors, la question que nous allons vous poser, alors il y aura sur le site internet, sur le Facebook de 48FM dans quelques instants, la question qui va s'afficher, c'est quelle est... De quels champignons avons-nous parlé jusque pendant tout le début de cette émission, dont on, nous allons continuer à parler? Oui, on fait des questions si, très dur.
S'il y a des gens qui se trompent, vraiment, c'est qu'ils ne nous ont pas écoutés attentivement. Voilà. Parce
que... Vous pourrez, et grâce à M. Lesage qui fait passer un petit message pendant l'évocation d'Axel Lafond, vous pourrez gagner aussi une bouteille de la liqueur fameuse de ce champignon.
Ah ben bah super, ouais. Quelle surprise, merci. Voilà. Merci à notre invité.
Un petit indice, oui. Ou sinon pour la réponse.
Oui, bon, on verra après la chanson quand même. alors peut-être vous allez on va aller à la question de la chanson. On vous a proposé de choisir cette première chanson, cette première coupure musicale. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce choix?
Parce que j'ai toujours été un fan de Jean-Jacques Goldman.
Allez, bon, on écoute. Je te donne. C'est parti.
I can give you a voice bred with rhythm and soul, the heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring, carry your thoughts in the songs we sing.
Je te donne mes notes, je te donne mes mots, quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois, ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux.
I can give you the force of my ancestral pride, will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day.
Je te donne nos doutes et notre indicible espoir, les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brûlées, l'on parle un peu fort, et l'humour et l'amour sont nos trésors. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux.
Fragile et pour ta la voix. Je te donne
Allez, on se retrouve sur cette émission Loz Actuali. Alors, vous pouvez toujours jouer, puisque nous n'avons toujours pas de gagnant. Alors, allez-y, jetez-vous sur Facebook à gagner, on vous le rappelle. Une entrée pour le spectacle d'Axel Lafont au Théâtre de Mende le 13 octobre et une bouteille de liqueur de cèpe. Alors, n'hésitez pas, soyez...
On rappelle la page, peut-être ?
Oui, 48FM voilà. Mende Lozère sur la page Facebook. Et vous pouvez aussi nous contacter via Twitter, le premier qui nous avec le hashtag LozActuali et le @48FM Mende. Tu nous expliqueras tout ça à nouveau, Adeline, tout à l'heure.
Pas de souci.
Très bien, ben on continue et on poursuit notre rencontre avec Alain Lesage. Alors, on parlait du CEP, hein, on en a parlé un petit peu dans toutes ces coutures, on a continué à en parler pendant la chanson, mais on va bien sûr vous faire participer maintenant, chers auditeurs. Quel progrès... Alors, vous nous avez dit finalement que ce produit et ce développement de l'activité, il est lié à cette manifestation des toquets du CEP. C'est ça qui finalement a déclenché. Alors, j'imagine que quand cet événement revient, pour vous, c'est un moment particulier.
En effet, ouais, les toquets du CEP, ça reste une des manifestations mendoises les plus réputées en dehors des frontières de la Lozère et qui attire beaucoup de monde des départements voisins par la qualité de la manifestation. Et bien évidemment, on y participe tous les ans très activement avec des démonstrations, des dégustations publiques de tout ce que l'on pourra faire avec la liqueur de CEP. On parlait pendant la petite pause musicale de la glace au CEP qu'on avait tenté l'an dernier. On a été victime d'une météo très défavorable et peu de gens en ont profité. Et on espère que cette année, le soleil sera de la partie et qu'on pourra à nouveau ressortir la machine à glace et faire goûter la glace au CEP.
Alors, qu'est-ce que vous allez proposer justement pendant ces toquets du CEP?
Donc, les toquets du CEP, c'est des démonstrations, quelques dégustations sous forme de petites verrines, en général des tiramisu, mais il y a plein d'autres choses. On va faire aussi des veloutés au CEP. En dégustation publique, et le soir, on fait deux petites soirées privées. On a une douzaine de places le vendredi et le samedi, avec un menu, si on peut dire, décliné de l'entrée au dessert autour du CEP, et accompagné des vins en général locaux qu'on met en avant aussi.
Alors faites-nous saliver, donnez-nous envie, qu'est-ce qu'on retrouvera dans ce menu?
On va essentiellement faire goûter cette année des Saint-Jacques panés avec une panure au cèpe. On va faire goûter un filet mignon en sauce aigre douce à la moutarde au cèpe. Et puis des petits trios de fromage en feuilles de brique associés avec la confiture. Et le dessert, on n'en parlera pas, même à l'antenne. Ceux qui viennent ne savent pas ce qu'ils consomment.
C'est
la surprise cette année.
Wow. D'accord. Et est-ce que nous sommes sur une année à CEP?
Eh bien, malheureusement, on est victime, si on peut dire, d'un trop bel été, une trop belle arrière-saison, avec des bois qui sont pour l'instant très très secs. On a fait la foire aux champignons dimanche à Aumont. On a eu l'occasion d'en voir quelques-uns parmi les premiers. Dans les premiers, quoi, mais ça reste non, très difficile pour l'instant. Il faudrait quelques épisodes Cévenol, pas trop trop fort non plus, mais juste assez pour mouiller le fond de nos bois.
Alors, pas samedi, du coup, quand même, si on veut quand même profiter de la manifestation en ville sous un beau soleil.
Donc, ça risque d'être peut-être compliqué pour les séances de cueillettes de champignons prévues au programme.
Malheureusement, ouais, c'est régulier que tous les ans, au toquet du CEP, les cueillettes de champignons sont très discrètes. C'est pas le top, non. Et cette année, à nouveau, malgré un décalage d'à peu près une semaine par rapport à la date habituelle.
Et vous produisez vous avez du stock d'une année sur l'autre. Comment ça se passe? Parce que c'est quand même un produit qui est saisonnier.
Voilà, c'est un produit qui est saisonnier, mais il faut bien prévoir les stocks, puisqu'après, l'essentiel de mes transformations se fait à partir de champignons séchés. Donc pendant la saison, on fait sécher le maximum. Donc là, les stocks sont vraiment au plus bas, mais on continue de racheter soit avec des collègues collecteurs qui ont encore du stock, soit des particuliers qui vendent un peu de champignons secs dans l'année. On arrive encore à trouver un petit peu de stock. Et puis là, on est prêt. Hein, les grilles sont prêtes, on est futés. On attend maintenant la sortie avec impatience, mais elle arrivera bien.
Toute la ville finalement est en train de se parer aux couleurs des toquets du CEP. Hein, les les forêts ont poussé
dans le cœur de ville.
Et on retrouvera un certain nombre d'animations avec des chefs qui viennent aussi cuisiner. Donc voilà, on retrouvera ça sur la place Chaptal notamment. Il y aura un marché qui va, enfin voilà, avec vous, j'imagine que vous allez sortir aussi dehors de votre
boutique. C'est l'événement et on met un barnum devant le magasin, voilà, pour que le plus grand puisse profiter des démonstrations qui sont faites et qu'on soit pas obligé de se sentir obligé d'entrer dans le magasin pour pouvoir profiter des animations. Hein.
Alors de 14h à 18h, il y a une exposition aussi de champignons proposée par l'association mycologique de Lozère. On remercie aussi Philippe Laune avec qui on a pris contact par rapport à cette émission, qui ne pouvait pas être là non plus aujourd'hui. C'était compliqué pour retrouver des invités pour aujourd'hui. Et puis une visite aussi guidée de la ville sur le thème historique, mycologique et gourmand, donc proposée par l'Office de tourisme intercommunal. Voilà, vous pouvez retrouver évidemment le programme de partout dans les commerces en ville. J'imagine que si on vient chez vous, il doit y avoir le petit flyer.
Tout à fait, le programme est à disposition.
Voilà, et puis donc un jeu qui est aussi proposé par l'office de commerce.
C'est l'office de commerce.
Voilà, donc un grand jeu pour vous avez un petit 1 000 € de chèque cadeau à gagner donc chez les commerçants cœur de Lozère. Donc voilà, c'est une belle animation. Est-ce qu'il y a d'autres produits d'automne sur lesquels vous préparez là après le cèpe?
Après le cèpe, il y a un tout petit peu de châtaigne. Il y a aussi le gratte-cul qui est quand même un produit qui est bien mis en valeur également en Lozère. Mm-hmm. Donc mais j'en fais que de la confiture. Hein. Après, il n'y a pas autant de développement sur les autres produits que sur le champignon.
Et vous allez à la rencontre de vos clients. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, on s'était croisés au salon de l'agriculture. Vous avez cette démarche d'aller sur des événements
Voilà, donc pendant l'été, c'est exclusivement le magasin qui est privilégié pendant la saison touristique. Et puis, une fois la saison des champignons terminée et l'essentiel de nos stocks constitués, je pars en effet sur différents salons, sur différentes manifestations gastronomiques un peu partout en France. Il y a de prévu les journées gastronomiques de Sologne à Romorantin fin octobre. Il y a un salon à Le Sandre à côté de Cournon. Il y a Moulins, il y a Paris Rambouillet aussi, un réseau Paris Fermier auquel j'adhère, où il y a une très très belle manifestation sur la bergerie nationale. Et puis le marché de Noël de Bourges pour cette année, où là par contre, après tous ces salons au cœur de France, il y en a que je fais moi-même, il y en a maintenant qui sont animés par un employé et qui permettent aussi de faire des doublons. On développe davantage, de plus en plus aussi, cette activité-là.
Ouais, donc d'une certaine façon, vous exportez la Lozère.
Voilà, c'est une façon d'aller présenter aussi la Lozère, ses spécialités ailleurs, éventuellement de faire découvrir la Lozère à des gens intéressés qui profiteront de faire un crochet pour voir le magasin et de découvrir le département dans l'espoir qu'ils viennent y passer quelques jours l'année suivante, pourquoi pas.
Et vous continuez à avoir une activité aussi de vente en ligne pour ces personnes que vous...
Donc le site qui a été la base de tout continue d'exister. Il est plutôt passif maintenant, mais c'est plus en fait des gens qui auront découvert mes produits sur divers salons et qui voudront, qui ont pris, qui en ont plus, qui veulent recommander ou qui veulent profiter de faire des cadeaux, de faire découvrir ce produit original à de la famille ou à des amis ou des voisins qui n'ont pas pu m'y trouver sur ces manifestations.
Bon, ben voilà, on a, pour ce hashtag CEP, terminé de faire un peu le tour. Voilà, on rappelle toute cette fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, les toquets du CEP, amende. Vous êtes ouvert jusqu'au dimanche aussi?
Le dimanche, non, je ne serai pas ouvert. On n'ouvre que le samedi soir, donc
Deux soirées, donc il y a encore quelques places. Vous nous
il reste encore quelques places, à la fois pour le vendredi et le samedi, même si ça commence déjà à bien se remplir.
Donc il faut très vite se rapprocher de vous pour tout ça. Très bien. Mais
qu'on a des notifications sur Twitter. On a un tweet de Bruno qui nous dit que ça donne faim, tout ça. Voilà, donc du coup... on donne envie à nos auditeurs, on les fait saliver en tout cas. Donc n'hésitez pas à jouer pour gagner une bouteille de liqueur de cèpe et des places de concert, enfin des places pour le spectacle d'Axel Lafond.
Oui, elle a fait des chansons, mais là c'est le.
N'hésitez pas. Donc Bruno qui nous a écrit un tweet peut peut en effet répondre à la question qui se trouve sur la page Facebook de 48 ouais, FM et peut-être
je crois que Bruno il peut gagner parce que si ça lui donne faim, je pense que
il a trouvé la réponse.
Je pense qu'il a trouvé la réponse. Donc on va lui donner ce point et
alors voilà, on a un premier gagnant.
Voilà. Donc qui pourra se rapprocher de 48 FM cet après-midi pour caler la récupération des objets. On poursuit après un petit jingle. On a Caroline qui nous fait un petit coucou peut-être, hein, voilà, et qu'on va laisser repartir. Un petit jingle et on poursuit avec le cinéma. Allez, on poursuit avec Eric. Eric et le film Demain.
C'est ça, c'est le film Demain. Donc, c'est un film documentaire français réalisé par Cyril Dion. C'est le cofondateur de l'association Colibri avec Pierre Rabhi, que l'on ne présente plus, et Mélanie Laurent, actrice et réalisatrice que vous avez peut-être vu jouer dans les films comme Je vais bien, ne t'en fais pas, ou Paris de Clapiche, ou Inglorious Bastard de Quentin Tarantino. Donc, oui. Je dois bien avouer que justement, ce casting de rêve m'avait un peu refroidi au départ. Donc je m'attendais à un film donneur de leçons par des stars du cinéma qui veulent s'acheter une bonne conscience en produisant un film parce que c'est tendance de parler de l'écologie, enfin un peu genre Bobo de Paris qui n'est jamais sorti de la capitale. Bon, il s'avère que j'aime bien Twitter. Pour une raison principale, je m'en sers comme d'une veille d'information sur les sujets qui m'intéressent.
Parfait.
Et c'est ainsi voilà, que le film et son co-réalisateur revenaient de plus en plus souvent dans les articles qui m'étaient conseillés. J'ai donc commencé à lire certains papiers, bon, même si on ne peut pas vraiment parler de papier pour les articles numériques. Et j'ai eu envie d'aller plus loin et de voir le film après avoir lu la démarche initiatrice. Donc déjà, il faut savoir qu'aucun professionnel de cinéma n'a voulu miser 1 € pour produire le film. Donc pour pouvoir se financer, ils ont fait appel au site KissKissBankBank. Ils ont rencontré un fulgurant succès avec environ plus de 10 000 donateurs pour 450 000 euros récoltés en seulement 2 mois. Donc déjà, peut-être que Adeline, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un site de financement participatif.
Alors tout à fait. Tu l'as fait en français parce que sinon, on entend aussi parler de site de crowdfunding. Ça s'appelle aussi comme ça. Ce sont des sites en fait qui permettent à des projets d'être financés de façon collaborative. En fait, chacun d'entre nous peut miser quelques sous et participer en fait au financement d'un projet. Et globalement, du coup, si le porteur du projet atteint la somme nécessaire pour lancer le projet, bah, du coup, en général, les contributeurs auront un retour sur investissement ou en tout cas une part dans le projet, soit un petit cadeau ou leur nom dans le générique. Alors, je ne sais pas quelle contribution ont choisi l'équipe du film d'eux-mêmes. Et du coup, voilà, en général, les participants et les contributeurs ont après une place dans le projet qu'ils ont financé. On a des sites comme Ulule ou KissKissBankBank, justement, qui sont les plus connus sur du financement participatif.
Donc voilà, et après, donc pour l'histoire du film, ils sont partis du constat donc, que les écosystèmes étaient de plus en plus détériorés et qu'il ne faudrait pas attendre que les politiques ou les grandes entreprises fassent quelque chose pour commencer à agir. Et ils ne voulaient pas non plus faire un nouveau film pour montrer toutes les catastrophes écologiques et rentrer dans le misérabilisme, en sachant que l'homme est plus doué pour scénariser la destruction de sa planète que les solutions pour la sauver. Leur projet, c'était donc plutôt d'aller dans le positif et montrer que partout dans le monde, des solutions sont mises en place, sans avoir besoin pour cela de revenir au temps des cavernes avec l'éclairage à la bougie. On peut faire des choses modernes quand même. Donc les thèmes abordés sont ceux de l'alimentation responsable, l'énergie, les échanges économiques alternatifs, l'éducation, la démocratie. Donc c'est raconté à la manière d'un road movie planétaire. Ils ont visité 9 pays en plus de la France. Et c'est vrai qu'on ressent ce côté très, très scénarisé, même si c'est un documentaire, ça fait vraiment très cinéma. Et ça a pas ce côté trop technique ni anxiogène comme peuvent l'avoir les documentaires en général. Ils tentent là vraiment de jouer sur l'humain avec des pionniers charismatiques, donc comme Pierre Rabhi, et le concret avec des initiatives locales à la portée de tous. Bon, on peut ainsi piocher des idées un peu partout pour tenter d'améliorer son quotidien. Donc, cela va des poubelles de San Francisco Donc ils en ont 3, le tri, le compost et les poubelles normales, et on paye suivant le poids de ces déchets. Donc le compost étant transformé, puis revendu et utilisé par les agriculteurs locaux. Il y a également une entreprise coopérative du nord de la France dans laquelle ils appliquent des piliers du développement durable. Donc c'est la préservation de l'environnement, le respect des salariés, du dialogue social et les gains de productivité. Ils ont par exemple relié le réseau du chauffage à la salle des machines. Comme ça, ils ne perdaient pas la chaleur qui était créée par toutes les machines. Donc voilà, ça c'est une idée aussi. Un autre exemple, ça a été la création et le développement d'une monnaie locale en Angleterre. Déjà là, il y a deux choses. C'est déjà, les Anglais peuvent avoir des bonnes idées. Ça, c'est une vraie découverte. Donc et, sans enlever la monnaie nationale.
Et la monnaie locale qui est aussi en réflexion à Paris en ce moment.
C'est ça. En fait, ça oblige les gens à consommer localement et ne pas dépenser, soit sur Internet, ou voilà. Donc ça recrée du lien social et ça refait marcher les commerces locaux. Donc ils mettent ainsi en lumière des anonymes qui inventent et créent et préparent l'avenir. Après, il faut savoir que le bouche à oreille donc, a fonctionné à merveille, et les réseaux sociaux ont fait le reste. Pour promouvoir le film documentaire, donc il est sorti en 2015 et il a reçu le César de meilleur film documentaire en 2016 et il a été vu par plus d'un million de personnes et maintenant il est distribué dans 27 pays. Certains spectateurs se sont même découverts écologistes et ils ont montré des groupes locaux donc pour déployer autour de chez eux les solutions exposées dans le film.
C'est très intéressant la façon dont ils ont construit justement toute leur communication et tout le lancement du projet autour des réseaux sociaux, tu le dis. C'est assez innovant aussi dans l'industrie du cinéma, cette façon de faire. Et au final, ils ont outrepassé certains process traditionnels de diffusion, etc., en utilisant la communauté qu'ils ont constituée sur les réseaux sociaux. Donc c'est très intéressant parce qu'ils avaient de fait déjà une grosse partie de leurs spectateurs qui étaient acquis à la cause puisqu'ils l'avaient en partie financée. Donc ça permet aussi de s'assurer d'un public au moment de la diffusion aussi.
Oui, j'ai même vu qu'il y avait une pétition qui s'était lancée donc pour diffuser le film dans les collèges, pour pouvoir éduquer donc les enfants qui pourront peut-être à leur tour arriver à éduquer leurs parents. Donc là-dessus. Ouais. Donc voilà, après, voilà, les purs et durs vont certainement trouver que donc les solutions ne sont pas assez radicales, mais il faut bien commencer et trouver un début au changement. Je ne connais pas non plus le bilan carbone donc pour la réalisation du documentaire, qui sont allés dans 9 pays. Après, je sais qu'ils ont compensé justement ce bilan carbone par de la plantation d'arbres.
Oui.
Justement, pour rester dans le projet. Après, ça m'a permis, moi, de me conforter dans l'idée que même à notre échelle, on peut faire évoluer certaines choses. Donc, la transition écologique devient possible. C'est pas juste de la méthode Coué, mais c'est la mise en avant de solutions concrètes. Donc voilà, moi j'ai pris plusieurs exemples à mon compte, c'est pareil, rien que pour l'électricité, j'ai essayé de revoir si je pouvais pas trouver un fournisseur qui utilisait de l'énergie renouvelable, ce genre de choses. Voilà. Donc après on peut aller sur le site pour trouver d'autres solutions. Donc voilà, on peut prendre des exemples, donc voilà, il est possible vraiment de commencer tout de suite à changer, même à notre niveau.
Voilà, ben merci Eric pour cette évocation du film demain. Et ce sera sur ce sujet qu'il y aura la deuxième question pour le jeu tout à l'heure. La question est prête. Allez, un petit jingle et c'est la rubrique hashtag. On va voir ce que Adeline nous a réservé cette semaine. Allez, c'est reparti et c'est le moment d'hashtag cette chronique sur l'actualité des réseaux sociaux tenue d'une main de maître par Adeline.
Alors toujours plutôt autour de Twitter dans cette chronique hashtag, on fera d'autres réseaux sociaux au fur et à mesure de l'année, mais là du coup c'est vrai que je suis très branchée Twitter en ce moment, donc continue sur ma lancée.
Il y en a qui risquent quand même d'être compliqués, hein, parce que ceux qui sont à base d'images, ça peut peut-être être un peu plus compliqué.
On verra, après on peut justement utiliser le multi-support et utiliser les images sur la page Facebook par exemple. Pour cette chronique, je vous avoue, donc, et pour toutes les autres d'ailleurs, je la prépare en fait le lundi soir, parce que l'idée c'est d'avoir des tendances un peu fraîches pour le début de la semaine du MAG. Donc du coup, j'ai préparé cette chronique hier soir. Et donc, vous imaginez ma surprise quand j'ai découvert le tweet le plus tendance cette semaine. Alors, je vous le dis, c'est le hashtag « On t'a ligoté comme Kimka ». Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de ce week-end, c'est un hashtag qui fait référence à Kim Kardashian, donc cette star people, qui a été braquée et ligotée à son domicile parisien ce week-end, et où du coup, les cambrioleurs se sont emparés de près de 10 millions de dollars de butin. Alors, évidemment, je compatis hein, avec la star allégée de ces quelques millions de dollars de bijoux, mais je m'interroge quand même sur l'actualité de ces derniers jours. Ne s'est-il rien passé d'autre que ce cambriolage de Kim Kardashian ? Donc, j'ai un peu fouillé, etc. Et si j'ai trouvé une véritable actu de fond, toujours sur Twitter, en Inde, donc voilà, un pigeon a été placé en détention après avoir été retrouvé à la frontière avec le Pakistan alors qu'il transportait une lettre de menace envers l'Inde. Alors sur place, évidemment, le sujet est pris très au sérieux par les autorités, mais sur Twitter, un internaute a lancé un nouveau hashtag qui, évidemment, hier était donc le deuxième hashtag le plus tweeté, le hashtag « Libérer le pigeon ». Donc voilà, bref, cette semaine, en effet, pas de hashtag Matthew, par exemple, en référence à l'ouragan en mouvement dans les Caraïbes, pas de hashtag Alep, ville du coup qui croule sous les bombardements et les raids aériens depuis quelques jours, pas de hashtag non plus sur l'actualité en lien avec les prix Nobel ou tout ce genre de hashtag un petit peu plus, on va dire... Ouais, culturel ou en tout cas un petit peu plus élevé. Donc en effet, un petit peu plus sérieux. Entre le ligotage de Kim Kardashian et la libération du pigeon, on peut dire que les tweets tendance cette semaine ne volent pas bien haut sur la planète Twitter. Mais bon, une fois n'est pas coutume, c'est aussi l'occasion sur les réseaux sociaux de détourner un petit peu l'actualité.
Et alors côté Lozère ?
Alors côté Lozère, par contre, là, des hashtags très sérieux. On retrouve un hashtag emploi suite à l'article du Figaro de ce début de semaine sur la bonne santé des emplois dans le secteur associatif en Lozère et dans le Cantal. Et puis un hashtag loup en lien avec les polémiques actuelles de notre département. Voilà pour le tour d'horizon des réseaux sociaux de cette chronique hashtag.
Et merci Adeline. Voilà, on a fait le tour de la twittosphère de cette semaine, de cette quinzaine, c'est vraiment de ces derniers jours. Alors, c'est le moment de la deuxième coupure musicale, et donc le jeu, évidemment, c'est de quel film Eric nous a parlé aujourd'hui. Donc toujours à gagner une place pour le spectacle d'Axel Lafont, c'est le 13 octobre au Théâtre de Mende. Donc voilà, c'est parti, vous pouvez jouer sur la page Facebook de 48FM, donc 48FM Mende-Lozère, où vous pouvez donc directement commenter. Et à ce moment-là, vous avez vous pouvez gagner directement sur place. Voilà, c'est parti, la pause musicale, c'est avec Raphaël.
D'où vient le vent du matin ? Que le jour chasse son chemin. Où s'en vont les poussières qui brûlent nos yeux, nous troublent la vue et nous rendent amoureux. Des plumes dans les cheveux et rien dans les mains. Se coudre les paupières pour ne plus voir rien. C'est dans ma nature, c'est dans mon sang. Un poison violent mélange de mes parents. Est-ce mon squelette au bar de l'hôtel? Est-ce ma toilette faite au scalpel? Est-ce que ce sont mes effets aux enchères? Et cette détresse que je paye bien cher? Pour combien tu m'aimes? Combien tu me quittes, tu me tiens en laisse, tu me laisses quitte. D'où vient que je t'aimais avant? D'où vient le hockey, comment tombe la pluie? Combien coûte le bonheur d'une seule nuit? Comment sommes-nous arrivés ici? Qui a fait les océans et les cœurs brûlés? La colonne et le cou ne cessent de marcher. qu'il y a de plus doux. On nous jette des fleurs ou bien des cailloux. Est-ce mon squelette au bar de l'hôtel? Est-ce ma toilette faite au scalpel? Est-ce mon souvenir aux enchères? Et cette détresse que je paye si cher? Pour combien tu m'aimes, pour combien tu me laisses? Tu me tiens en laisse, tu me laisses quitte. Ce n'est que moi, ce n'est que moi. Une espèce disparue, une espèce menacée. Ce n'est que moi, ce n'est que moi. Ce n'est que moi, ce n'est que moi.
Et voilà, on se retrouve pour la troisième partie de Los Actuali. Je rigole parce que Caroline qui nous envoie des messages en nous donnant les bonnes réponses à ce jeu, et c'est la seule qui a répondu pour l'instant. Donc voilà,
avec, sur... avec Alban.
Oui, avec Alban qui avait répondu tout à l'heure sur la première, sur le CEP, ouais. Mais pas sur la deuxième. Faut qu'il se réveille, Alban. s'il nous entend, hein, voilà. Donc c'est maintenant la revue de presse dans Los Actuali, et on commence avec Eric et la liberté de la presse menacée.
C'est ça. Donc en fait c'est suite à un projet de loi qui s'appelle Égalité et citoyenneté, qui est examiné à partir d'aujourd'hui par le Sénat. Et déjà, donc, c'est un projet de loi, le nom ratisse large. Donc ça va de la réserve citoyenne à l'abolition d'une ordonnance de Charles X, en passant par le logement et la mixité sociale. En gros, c'est un texte qui pourrait se qualifier de fourre-tout. Donc, la loi est déjà passée et a été votée à l'Assemblée, mais les sénateurs vont en débattre du texte à partir d'aujourd'hui, et ils comptent bien le détricoter, en rajoutant plusieurs amendements. Alors, la partie de loi que je vais évoquer, aujourd'hui, ça porte sur les abus sur Internet, mais surtout par ricochet, donc elle porte bien atteinte à la loi de 1881 sur la presse et sa jurisprudence. Donc la loi sur la presse prévoit en principe un principe de liberté, mais le projet du Sénat prévoit, lui, par contre, de s'attaquer aux fondements de celle-ci. D'abord, il propose de revenir sur la prescription, en sachant que jusqu'à présent, un article ne peut être attaqué que dans les 3 mois qui suivent sa parution. Et la règle, elle s'applique aussi à Internet. Mais le projet, il propose maintenant que les 3 mois commencent à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message. Donc en gros, c'est qu'à partir du moment où l'article aura été retiré, que les 3 mois y comptent. En sachant que sur Internet, voilà, un article, il peut rester en ligne très longtemps, voire maintenant en permanence. Ils ne sont jamais retirés, les articles. Donc en gros, il n'y aurait plus de droit de prescription sur les articles sur Internet. Donc déjà, ça c'est un premier point contre les libertés contre les lois qui provoquent... sur les libertés de la presse. Et après, la loi elle propose également des actions en justice pour faute civile. Donc en gros, n'importe quel particulier ou entreprise pourra poursuivre un article lui déplaisant sans avoir à subir les contraintes de la loi sur la presse. On va prendre un exemple. En gros, admettons un article, suite à une enquête, il démonte les erreurs d'une société, et que cette société voit ses parts de marché s'effondrer suite à la parution de l'article. Et bien, la société pourrait tenter un recours au civil pour demander réparation du préjudice subi, alors même que l'article n'aurait pas été jugé diffamatoire par les lois actuelles. Donc voilà, donc en gros, on va demander à des juges non spécialisés d'intervenir sur des procédures pour lesquelles ils n'étaient jusqu'à présent pas qualifiés. Donc les sénateurs se défendent en assurant que leurs propositions ne sanctionnent pas les journalistes, mais les abus de la liberté d'expression. Alors même que ce sont justement leurs propositions qui sont dénoncées par tous les professionnels de la presse, en fait. Donc en résumé, si je comprends bien, donc ils veulent tout simplement remettre en cause un équilibre de plus d'un siècle sur la liberté d'expression, sans véritable discussion avec la profession. Donc les débats sur les conséquences de la révolution numérique, parce que là c'est le sujet initial sur Internet, il faut qu'il soit fait le débat, mais il ne faut pas non plus que ce soit fait contre la liberté de la presse. Il faut vraiment que ce soit un vecteur de progrès démocratique, et donc voilà, il faudrait qu'ils en discutent peut-être un peu plus avant de voter ce projet de loi.
Est-ce qu'il y a eu des réactions du coup de la profession au sujet de cette...
Oui, ça commence juste. Ce qu'il y a, c'est que encore une fois, c'est vraiment au milieu d'un projet de loi qui était bien plus ample, et que au départ, la loi qui a été votée donc par les députés, c'est pas du tout celle qui est proposée maintenant par les sénateurs.
D'accord. Donc on dommage que Caroline ne soit pas là pour donner son
avis.
Donc je pense qu'ils vont attendre de voir comment ça va se passer maintenant au Sénat.
D'accord.
Bon, voilà, une affaire à suivre. C'était un petit peu l'édito du jour. On poursuit avec l'article Resto Barquette. C'est le titre de cet article dans la rubrique L'idée qui fait du bien. C'est dans Néon cette semaine, enfin ce mois-ci plutôt. Et c'est en fait une appli, hein, Menu Nextdoor, qui permet de commander un repas cuisiné avec amour par son voisin, à prix raisonnable, et de déguster chez soi. Voilà. Donc on peut... Enfin, il y a plein d'exemples, hein, qui sont donnés. Et avec des gens qui vendent leurs produits, alors avec de différents tarifs, hein, ça va de à 10 euros en moyenne l'entrée et le plat, ou le plat et le dessert, et entre 12 et 14 euros pour la formule entrée-plat-dessert. Certains vont quand même faire... 200 à 300 euros par jour en faisant ce système-là, avec en vendant 20 à 40 portions par semaine pour certains chefs à domicile, entre guillemets. Donc voilà, une initiative assez marrante finalement, et ça se développe beaucoup, puisqu'il y a 550 personnes qui proposent des plats sur Paris, et l'application qui a été lancée d'abord sur Bruxelles a déjà plus d'un millier de chefs et de proposants de cuisine au départ. Voilà, donc une façon un peu originale de goûter des produits qu'on cuisinerait pas forcément chez soi. Voilà. Alors c'est pas arrivé encore en Lozère, mais voilà, peut-être pour la Lozère, il vaut mieux réserver une place pour venir manger une déclinaison autour du CEP chez Monsieur Le Sage vendredi ou samedi. Je sais pas, ça vous donne envie de ça vous auriez
ah oui,
envie
oui,
d'acheter
complètement. Alors après l'idée est super sympa. Après, il faut avoir confiance aussi un petit peu
oui.
dans les talents de cuisinier de nos voisins. Mais non, ça peut être sympa. Après, tu nous rappelles le nom de l'appli?
Ça s'appelle Menu Nextdoor.
Okay.
Et ce qui, malgré tout, il y a un système de notation souvent, comme dans tous ces outils d'économie, de la collaboration, de l'économie, enfin voilà. Et donc finalement, si votre voisin fait un truc complètement dégueulasse et qu'il vend très cher, je pense que ça se sait assez vite et donc forcément, ça ne fonctionne pas. Voilà.
Très bonne idée.
On reste sur le net avec toi, Adeline, pour le dernier article.
Oui, ça marche. Sur un article un peu moins léger que les précédents cette fois-ci, puisque du coup, je voulais vous parler dans la revue de presse d'aujourd'hui d'une enquête, d'une étude qui a été publiée fin septembre 2016 sur le cybersexisme chez les adolescents dans les établissements scolaires franciliens de la 5e à la 2e. Donc, c'est une étude qui a été réalisée par l'Observatoire universitaire international éducation et prévention, et commandité par le centre Hubertine Auclair. Donc ce centre explore depuis 2013 les questions justement de l'usage des outils numériques à travers le prisme des genres. Donc cette étude a été suivie du lancement d'une semaine de campagne de prévention du cybersexisme. Donc d'ailleurs, que ce soit l'enquête en elle-même, les résultats de l'enquête ou le spot de la campagne, on se propose de vous les mettre à disposition sur le site de 48FM pour aller un petit peu plus loin. Mais je voulais déjà, avec vous, partager quelques petits retours sur cette enquête. Mais pour commencer, du coup, l'idée, c'était de se dire de quoi parle-t-on quand on parle de cybersexisme. Donc, une petite définition, quand même, du coup, qui a été rédigée par le Centre Hubertine Auclert, qui est référence en la matière. Donc, le cybersexisme, ce sont des actes, commentaires, messages à caractère sexuel ou qui critiquent la manière de s'habiller, l'apparence physique ou le comportement. Ce sont des violences sexistes ou sexuelles qui visent principalement les filles, mais aussi les garçons. Et là où c'est très intéressant, c'est que le cybersexisme s'exerce hors ligne et en ligne. En fait, l'étude montre qu'il y a justement un processus très complexe dans la diffusion de ces violences et qui se répondent à la fois en ligne et à la fois dans les établissements scolaires en tant que tels. Donc le cybersexisme ne concerne pas d'ailleurs uniquement des contenus à caractère sexuel. On est bien là dans toute forme de discrimination liée au genre. Donc ça peut être sur l'apparence ou sur l'habillage ou sur des comportements.
L'habillement peut-être plutôt.
L'habillement, merci, pardon. Alors, que nous dit cette étude en quelques chiffres ? Donc, justement, je vous disais que la violence est bien présente hors ligne et en ligne, mais qu'elle augmente en ligne sur la toile ces dernières années. Donc, juste quelques chiffres. 3 filles et 2 garçons par classe sont victimes de cybersexisme, avec 20% des filles qui rapportent avoir été insultées en ligne sur leur apparence physique, donc poids, taille ou autres particularités. 17% des filles et 11% des garçons qui déclarent avoir été confrontés à des cyberviolences à caractère sexuel par le biais de photos, de vidéos et de textes envoyés sous la contrainte ou diffusés sans l'accord de la personne. En bref, les filles sont 1,5 à 2 fois plus touchées par le cybersexisme que les garçons et les violences s'exercent à la fois en ligne et hors ligne. Évidemment, les épisodes de cyberviolence peuvent engendrer des impacts comme l'isolement, le désespoir, le sentiment d'insécurité de la part de ces adolescents, aussi la mise à l'écart et la perte de capacité. Bon à savoir, puisqu'on est quand même dans une rubrique numérique, il existe un hashtag associé à la campagne, donc le hashtag #StopCybersexisme. Et puis du coup, pour la prochaine journée de lutte contre le harcèlement le 3 novembre, le gouvernement a décidé de consacrer cette journée aux cyberviolences et donc évoquera notamment avec pas mal d'établissements scolaires franciliens la question du cybersexisme. Voilà, j'ai trouvé l'étude très bien faite, il y a pas mal de petites infographies et du coup la synthèse est très très facilement accessible, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est très intéressant et ça nous donne aussi beaucoup d'infos sur cette génération qu'on appelle les natifs numériques. Et leur rapport aux nouvelles technologies dans cette étude.
Avec les risques qu'il peut y avoir.
Voilà, c'était un petit zoom sur les risques aussi et les dérives des outils numériques.
Bon, ben voilà, c'était un peu de sérieux pour terminer cette revue de presse. Et on retrouvera évidemment les articles dans le post ce soir. Vous aurez, comme d'habitude, un post Facebook avec toutes les références des articles évoqués aujourd'hui. Et puis, le programme des toquets du CEP, on le rappelle, c'est tout au long de ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, avec des animations proposées par Monsieur Le Sage devant son magasin Saveur Gourmande. On remercie d'être venu nous parler de son activité et de ses champignons qu'on espère pouvoir aller cueillir bientôt.
Est-ce qu'on a d'autres gagnants du coup à notre jeu du jour ?
Je crois pas.
Non ?
Je crois pas. Donc voilà, on va terminer tout ça et donc c'est pour ceux qui n'auraient pas pu jouer, qui entendent cette émission en rediffusion. Rendez-vous vendredi dans l'émission La Lorgnette, puisqu'il restera de place à gagner normalement. Voilà, avec toute l'équipe de nos amis du magazine littéraire de 48FM. Voilà, donc merci à vous d'être venus nous partager un petit peu votre histoire et vos propositions. Et merci tous les deux d'être venus pour ces chroniques.
Merci beaucoup et merci Monsieur Le Sage de nous avoir mis l'eau à la bouche en prévision de ce week-end. Merci.
Merci à vous tous.
À bientôt.
À bientôt.
L'Ose Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Ose Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Ose Actuali, le nouveau magazine de 48FM.